Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, les grandes gueules.
Le président de la République, moi-même, la majorité, considère que cette réforme est prioritaire. C'est bien pour cela qu'elle était dans le programme sur lequel Emmanuel Macron a été réélu. Je pense que c'est important de se redire qu'on a en France un modèle social unique au monde, dans lequel, quand on a un problème de santé, on est remboursé de ses dépenses de santé, qu'on a accès à, gratuitement à l'école, que quand on a eu la crise du Covid, on a tous été protégés. Tout ça, on ne pourra le financer durablement qu'à condition de produire collectivement plus de ressources pour financer notre système social et donc de travailler collectivement davantage.
Tu nous embêtes, Elisabeth. Tu nous embêtes.
Si vous avez un ami qui est trop heureux.
Il leur fallait une Margaret, une dame de fer en plus discrète. Et puis tout est cousu de fil blanc, de casseroles et de faux semblants pour tes collègues, tes psychoses. Regarde, j'ai trouvé le poteau rose, quitte à avoir quelqu'un de toxique, au moins que ce soit pas une vieille bique. Tu nous embêtes.
D'où ça sort, ça faudra nous le dire. C'est Yann Tiersen, me dit-on, voilà, la chanson. Réforme des retraites. Oui. Doit-on accélérer ou lever le pied?
En tout cas, elle était compliquée, cette interview ce matin. Bravo à Pauline de Malherbe, parce que, en fait, la première ministre est arrivée. Elle n'avait pas grand-chose à dire là-dessus, puisqu'on l'a bien compris, c'est pas encore tranché. Le président Macron aime bien prendre son temps. Il n'aime pas être, comme ça, acculé. Donc, il prend son temps. Donc, on ne sait toujours pas quelle sera la méthode. On a bien compris que l'idée, c'était de faire travailler les Français un peu plus. Donc, sans doute, reculer l'âge légal, mais aussi peut-être allonger la durée de cotisation. Mais on ne sait pas précisément comment ça va se faire. Ces derniers temps, on a essayé, un peu comme un ballon d'essai, de laisser entendre qu'on allait passer en force. Visiblement, ça ne passe pas. On a entendu notamment François Bayrou nous dire ce week-end, on n'est pas aux pièces, on peut se donner 3 ou 4 mois. Attention, on ne gouverne pas contre le peuple. En revanche, Édouard Philippe, lui, va aller vite. Quoi qu'il en soit, décidons vite, dit l'ancien Premier ministre, qui n'a pas été capable quand même de réformer lors du précédent quinquennat les retraites. Mais comme cette fois-ci, il n'est plus au pouvoir, c'est sans doute plus facile à dire. Bref, est-ce qu'il faut aller vite ou au contraire lever le pied?
32-16 pour en parler avec Ligier Barbara.
Oh, faut que je réponde à la question?
Je peux vous le faire
à la Elisabeth Borne pendant une demi-heure, bla bla bla, pour ne rien dire. Non mais, faut-il accélérer ou lever le pied? Non mais, j'entendais même ce matin Laurent Berger, qui quand même a toujours été plutôt favorable aux réformes, dire non. Non, le contexte n'est pas bon. Il faut, Laurent Berger qui dit qu'il faut 6 mois de discussion. Alors, je veux dire pas 6 mois. Parce que, et sur ce point d'ailleurs, je pense qu'il a raison. La retraite, le travail, l'emploi, c'est une réflexion générale qu'il faut avoir sur ces sujets-là. Il est temps, je pense, en 2022, de remettre à plat ces questions-là. Pas seulement la question des retraites. Or, on voit bien aujourd'hui, le gouvernement essaie de faire croire qu'avec une réforme des retraites, c'est des problèmes budgétaires majeurs et d'endettement majeurs qui seront réglés. Même la haute commission à la fonction au budget, là, a rendu un rapport pour dire les premiers éléments dont nous disposons sur le budget ne sont absolument pas à même de régler les problématiques d'endettement en France.
Oui,
et ce ne sont absolument pas.
Parce qu'on continue à dépenser.
Mais bien sûr, ils disent c'est absolument pas les quelques réformes annoncées là, par le gouvernement qui font quelque chose.
Mais il s'agit de faire des économies.
Mais non, mais ces économies-là de retraite, c'est des choses qui de toute façon porteront leurs fruits en 2027, 2028, 2029.
C'est vrai.
Donc tout cela qui serait encore une fois passé en force contre la population, avec pourquoi est-ce qu'il a fait le Conseil national de la refondation? Bon, pour rien, on le sait. Et en plus, il le confie à Bayrou. Tout ça pour dire après, mais c'est le 49-3. L'autre qui revient, qui dit non, ce sera pas le 49-3. Ah, mais on va discuter.
Donc on y comprend plus
Macron
rien.
Qui dit non, on discute alors, pas. Moi, je pense que là, en ce moment, à l'Élysée, ça cafouille complètement.
Il faut lever le pied, c'est ce que tu dis.
Bien sûr qu'il faut lever le pied.
Alors, accélérons. Il y a d'autres priorités, Charles.
Nous avons la chance d'avoir en France un modèle social exceptionnel. Quand nous tombons malades, nous sommes remboursés. Bienvenue à bord de notre train. Moi, je suis stupéfait par cette interview.
Tout le monde nous a dit que Borne était une technicienne extraordinaire qui avançait comme un brise-glace dans les méandres de cette assemblée protéiforme. Et en fait, bon, on voit que c'est toujours la même chose. Moi, je pense que Bayrou a décidé d'embêter tout le monde pour exister politiquement. C'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire qu'il se demande un peu quel est son rôle dans cette nouvelle majorité. Et comme les macronistes dans l'ensemble voulaient faire cette réforme, il s'est dit bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire le ventriloque du peuple. Celui qui sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Bayrou, c'est extraordinaire. Il se fait toujours l'interprète du sentiment populaire général. Donc il dit attention. C'est comme en Grèce, la Pythie, l'oracle, le mec qui sait voix divine. Et donc il nous dirait que les Français ne seraient pas prêts à faire cette réforme des retraites.
Mais citer les gilets jaunes.
Moi je pense franchement qu'ils sont tout à fait prêts si cette réforme est bien faite, si elle est juste, si elle faut pas faire de l'égalitarisme ou préserver des retraites des régimes spéciaux sous couvert de faire une réforme juste, parce que quand on entend aussi certains militants de gauche, une réforme juste c'est en fait une réforme où c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à partir tard à la retraite, qui se retrouvent à bosser plus, et il y a tous les gens qui sont syndiqués, etc., qui partent finalement à 60 ans voire avant. Donc moi je pense qu'il faut faire cette réforme, et je pense que
donc il faut accélérer.
Oui, moi je pense que contrairement à ce que pense Bayrou, les Français ne sont pas du tout stressés par rapport à cette réforme et ne la rejettent pas. Je pense qu'ils ont envie que notre pays avance et que on sorte de ce système où en fait nos lenteurs nous coûtent très cher, parce que une réforme des retraites qui n'est pas faite, qui sur laquelle on temporise, c'est des charges aussi. C'est aussi pour ça à la fin qu'on a des salaires qui coûtent cher et ce genre de choses. Donc moi je pense qu'il faut avancer tête baissée, quitte à la mettre dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, j'ai vu que beaucoup protestaient. Moi, je ne vois pas le problème.
Bruno Pomard.
Oui, moi, je pense qu'il faut vraiment accélérer. Ça date du passage d'Édouard Philippe. Donc, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années déjà qu'on en parle.
Bah, ce n'était pas la même réforme, a priori.
Oui, mais en attendant, on a
changé de réforme.
Ces réformes. Moi, ce que je pense, c'est à ceux de nos compatriotes les plus défavorisés dans cette affaire-là, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les retraités, etc., qui attendent quelque chose, un miracle. On a aidé déjà les agriculteurs sur la retraite, pour le départ des agriculteurs à la retraite, mais je vois que pour l'ensemble des professions qui sont les plus difficiles, ces gens-là attendent avec impatience que le gouvernement prenne une décision. Et à ce sujet-là, effectivement, on a l'impression qu'il piétine ou qu'on ne sait pas trop de quel côté aller.
Il me semble quand même qu'il y a des problèmes à régler avant de s'attaquer à la question notamment de l'âge. Parce que quand tu sais qu'il y a 40% des gens âgés de plus de 55 ans qui sont déjà mis dehors en pré-retraite, qui sont au chômage. D'accord ? Donc on est dans un pays.
Ça, c'est le discours des gens qui veulent rien réformer.
Non,
il y a toujours un truc plus urgent à faire d'abord.
Ah bah excuse-moi, quand tu as 40% des plus de 55 ans qui ont envie de travailler, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont été foutus dehors. Dire aux gens, vous allez travailler jusqu'à 66 ans alors que déjà à 55, ils ne peuvent pas bosser, excuse-moi.
Ce que dit Barbara est quand même intéressant, c'est que ça coûte cher aussi de prendre en charge des gens qui ne sont plus au boulot. Parce que là, on nous dit qu'il faut faire des économies en faisant travailler les gens plus longtemps. Mais si, effectivement, tu as 40% des gens qui ont 55 ans, on doit les mettre au RSA, au chômage, le temps qu'ils arrivent à l'âge de la retraite ou de la pré-retraite, ben ça, c'est de l'argent public.
Oui, mais ça, c'est de l'argent public.
Mais ce n'est pas les remettre au boulot, c'est qu'ils ne voulaient pas partir du boulot. Sauf que le nouveau manager, avec leur néo-management, leur management actif, leur management agile, et je ne sais plus quelle ânerie, on va te dire que non, il faut un manager de 30 balais. Alors qu'excuse-moi, mais dans certains métiers, y compris l'école blanche, et pas que l'école blanche, c'est plutôt un manager de 50 ans qu'il faudrait parfois pour former des petits jeunes qui sont même pas foutus d'écrire un mail correctement. Donc tu m'excuses.
Oui, et puis
je suis désolée.
Il y a les jeunes qui n'ont pas envie de faire certains boulots, Barbara. Tu peux. Le nombre d'emplois vacants dans ce pays et le nombre de chômeurs, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à un moment donné, il faut prendre le boulot qu'il y a et bosser une bonne fois pour toutes. Et pour
bosser quand on a des salaires qui sont décents.
Mais quand tu as des aides à côté qui te permettent de rien foutre.
Demande-toi pourquoi certaines. Mais demande-toi pourquoi c'est souvent des gens qui qui viennent, qui sont immigrés récents, qui travaillent dans le BTP par exemple,
parce que,
c'est mal payé. Bah parce que c'est mal payé aussi. Non, mais aussi parce que c'est mal payé.
C'est un travail pénible.
Et bah, c'est un travail pénible et mal payé. Et bah, les travaux pénibles, on nous l'avait dit pendant la crise du Covid, hein, que les travaux de première ligne, les plus pénibles, les gens qui ont des métiers avec une vraie utilité sociale devraient être revalorisés. Ils ne le sont pas vraiment.
On va aller du côté de Lyon, écouter le pouls de la France, justement. Du côté de Lyon, pas loin de Tonnerre, avec Olivier qui est dans le bâtiment. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour les GG.
Alors, mon cher Olivier, vous avez écouté en entier ou partiellement la première ministre, vous avez entendu les différentes opinions. Est-ce qu'à votre avis, sur cette réforme des retraites, il faut accélérer ou lever le pied, prendre le temps de la discussion, dites-nous.
Bah, je dirais pas qu'il faut accélérer, il faut la faire. J'irai dans le sens de Charles, il faut la faire. J'irai aussi dans le sens de Barbara, il y a un gros problème au niveau de l'emploi. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que les Français sont capables et veulent bien cette réforme. Si, par exemple, je prends mon métier, vous construisez les murs, mais avant de construire les murs, vous construisez schématiquement une fondation. Donc, si vous n'avez pas la fondation, si vous traitez pas la problématique à la base, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité pour tout le monde, ça ne passera jamais. Voilà, tout simplement. Après, les Français sont certainement d'accord pour cette réforme, mais je veux dire par là, la fonction publique, faut qu'elle soit aussi mise.
Supprimer les régimes spéciaux.
Il faut, c'est obligatoire. Bah moi je pense qu'il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. Si c'est on serre la ceinture, si c'est drastique pour tout le monde, faut que ça soit vraiment.
Oui, mais voyez le serrage de ceinture. Pour moi c'est pas une réforme. Je veux dire aux Français finalement on va réformer les retraites et ces traductions, ces serrages de ceinture pour tout le monde, c'est sûr que ça ne passera pas. C'est là où à mon avis le gouvernement s'y prend mal. Ce matin moi j'ai pas compris pourquoi il fallait réformer les retraites. Elisabeth Borne a simplement dit il faut pérenniser. Bon très bien. J'ai lu l'interview de Attal dans JDD. Lui il dit oui mais vous comprenez. Faut qu'on finance la dépendance, faut qu'on finance les policiers, la justice. Ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites.
Rien à voir.
Donc, sincèrement.
Ça veut dire où on met l'argent.
Non, mais je trouve que c'est mal barré, cette histoire, parce que on peut pas dire aux Français travailler plus si on leur explique pas exactement pourquoi il faut travailler plus. D'autant plus que, sincèrement, quand on dit aux Français travailler plus, on sait que c'est injuste. Les gens qui sont avocats peuvent travailler plus. Les gens qui sont profs peuvent travailler plus. Les journalistes peuvent travailler plus. Mais ceux qui ont les travaux plus pénibles, c'est quand même plus compliqué.
Olivier,
donc forcément, la réforme va être jugé injuste dès le départ.
Justement, Olivier, allez-y, vous êtes dans le bâtiment.
Oui, mais de toute façon, je vais sortir un petit peu du sujet, mais on a beau venir sur un plateau avec un ton bien posé, expliquer la chose, mais le caméléon, les gens ne sont plus dupes. Leur raconter ce qu'ils veulent entendre, ça va bien 5 minutes. Quoi. On sait très bien que de toute façon, il va avoir de la casse. Et il y a un moment, on s'aperçoit que, eh bien, ce qu'on entend, c'est la même messe depuis les mêmes histoires depuis les divers gouvernements. Mais globalement, c'est du saupoudrage.
Les syndicats ne sont pas dupes. Et même des gens qui ont été qui ont négocié, qui étaient favorables à la réforme, comme je rappelle Laurent Berger de la CFDT, qui dit on s'est fait avoir sur le truc du compte pénibilité. Quand il y a eu la réforme des retraites dans les années 2000, on nous a dit oui, mais alors vous inquiétez pas, il y aura la pénibilité. Et petit à petit, cette histoire de pénibilité, en réalité, elle a été complètement enterrée. Donc on voit que quand on donne des espèces de miettes aux partenaires sociaux pour leur faire accepter des réformes qui sont des réformes quand même sur des modèles néolibéraux. Eh bien,
c'est pas du tout un modèle néolibéral.
Les dimensions sociales.
On n'est pas passé non plus à la retraite par capitalisation.
On est dans un système
de retraite publique universel. On cotise tous des fortunes pour, sans doute, pour ceux qui cotisent le plus. On n'aura rien en termes de retraite.
Et ça, donc
en
fait, aussi.
On paye pour les autres. Donc c'est un système très bien, pourquoi pas. Hein, mais c'est un système qui est extrêmement solidaire. C'est vraiment un système de solidarité. Et ce qu'on dit simplement, c'est que, enfin, ce que le gouvernement dit simplement, ceux qui veulent faire cette réforme, disent que tout simplement, on vit plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'avant, et qu'en plus, il y a moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. Et que donc, il faut partir à la retraite un tout petit peu plus tard. Je suis désolé, mais ça ne me paraît pas extravagant. À force de refuser ces réformes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, ça ne sera plus tenable, le système ne sera plus équilibré et on va aller vers des retraites à l'américaine où on cotisera à des firmes
l'espérance de vie
privées, et peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller.
Peut-être qu'au lieu de
l'espérance de vie n'est pas la même selon le type de métier.
Au départ, Macron, il voulait changer ce système. Il voulait une retraite à la carte par points. Donc lui-même avait plutôt compris qu'on était peut-être au bout d'un système par répartition qui, effectivement, comme tu le dis, ne fonctionne plus quand il y a plus d'inactifs que d'actifs. Bah, peut-être que c'est ça la vraie réforme. Là, c'est un ajustement. Un ajustement qu'on fait quand même à chaque fois, puisque je rappelle que Sarkozy, on est passé de 60 à 62 ans.
Il y a une autre injustice.
Avec Hollande, on est passé à bientôt à 43 années de cotisation. Chaque président a fait sa réforme, mais c'est des réformes d'ajustement. Et là, Macron, il va passer à 63 ou 64 ans. Mais finalement, on réfléchit jamais sur le fond du problème. Est-ce que ce système est encore juste? A priori, il l'est pas complètement. Est-ce qu'il faudrait pas revoir complètement, mettre tout sur la table? Et là, Bayrou a raison en disant, il me faut 6 mois.
Concernant la question de justice, et tu seras, je pense, content, Charles, qu'on en parle. Il y a une forme d'inégalité entre le secteur privé et le secteur public. Quand tu es sur les 25 meilleures années dans le privé, mais que dans le public, tu es sur les 6 derniers mois, moi, je vais vous dire, en tant que prof, j'en ai vu des chefs d'établissement débouler dans nos établissements où on avait 800 élèves. Pourquoi le chef d'établissement était à 2 ans de la retraite, c'était un vieux qui arrivait. Pourquoi? Ben parce que dans un gros établissement, il avait un plus gros salaire et ça lui permettait de faire ses 2 dernières années de principal de collège ou de proviseur de lycée. Dans un lycée un collège très important en nombre, avec un meilleur salaire, et c'était ça qui lui permettait sa retraite. Mais ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Quand vous êtes un prof, par exemple, vous avez fait une grande partie de votre carrière à mi-temps, vous faites vos 3-4 dernières années à temps plein, c'est ça qui calcule votre retraite. Là, il y a une forme d'injustice.
Merci.
Et effectivement, ça, c'est des choses à corriger.
Merci à Olivier d'avoir été avec nous, l'artisan dans le bâtiment. On va continuer la discussion dans un instant, avec notamment Brice, qui est du côté de la Meuse, Pascal, du côté de l'Ardèche, et après Lyon. On va continuer de prendre le pouls de la France dans les GG, dans les grandes gueules à propos de cette réforme des retraites. Le gouvernement doit-il prendre le temps? On n'est pas aux pièces, comme le dit Bayrou, ou décider vite, comme le dit Édouard Philippe. Hein, tout de suite dans les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. Avant de continuer notre discussion sur la retraite, je demande à Brice et à Pascal 40 secondes de patience. Juste, écoutez bien, la Coupe du Monde de
Attention.
Foot, ça vous intéresse?
Non.
Je sais.
Mais c'est pas demande pas ça à Charles et Barbara.
C'est pas à vous que je parle, c'est aux passionnés de foot qui écoutent RMC, qui écoutent Jérôme Rotten, qui écoutent Moscato, qui écoutent l'After. Écoutez bien, je vous emmène à la Coupe du Monde pour assister au match de poule Tunisie-France le 30 novembre. Le vol en avion, l'hébergement, les places pour le match, rien à payer. Et en bonus, vous pourrez aller rencontrer les équipes d'RMC qui sont sur place, qui vous feront vivre les coulisses de la Coupe du Monde avec Jérôme Rotten. Avec l'After. Donc, pour faire ce Tunisie-France, tout compris, avec les équipes d'RMC, vous m'envoyez...
C'est pour 2 personnes.
Hein. Oui, pour 2 personnes, vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16. Tout au long de la semaine, vous vous inscrivez, puis le gagnant pour les 2 places, c'est vendredi, il sera tiré au sort en direct sur RMC. Donc on compte sur vous, vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16 et vous partez au Qatar pour Tunisie-France en Coupe du Monde. On revient à la réforme des retraites avec Pascal qui est dans l'Ardèche. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, monsieur Pascal de l'Ardèche, le gouvernement doit-il décider vite ou prendre le temps?
Pour moi, le gouvernement va déjà faire ce qu'il veut, comme beaucoup d'autres fois. Je ne sais pas si l'opinion du français lambda compte vraiment. Voilà. Moi, par contre, je trouve qu'il faut faire des réformes, bien entendu, si l'on veut pérenniser, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Je parle pour ma paroisse et pour tous mes confrères qui sont dans le bâtiment.
C'est
comme l'a
c'est
dit,
ça. Ouais.
Voilà. Et comme l'a dit un petit peu justement Monsieur Bardella, je ne suis pas spécialement sympathisant du Rassemblement National, mais comme il l'a dit, souvent les gens qui ont commencé tôt, c'est-à-dire avant 20 ans, ce sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'études, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, et ces gens-là ont souvent des métiers pénibles, et là, ils devraient en tenir compte. Monsieur Hollande, je crois que c'est Monsieur Hollande, notre ancien président, qui a dit que les métiers du bâtiment n'étaient pas des métiers pénibles, et ça n'a pas été reconnu comme métier pénible. Vous voyez, moi, aujourd'hui, là, je suis sur une toiture. C'est vrai que je suis par rapport à vous au soleil, là, mais je suis à 10 mètres de hauteur, à transporter du poids, et j'ai 56 ans. Je ne vois pas faire ça jusqu'à 62, 63 ans.
Pascal, vous avez calculé votre retraite, vous savez à peu près quand vous allez arrêter et combien vous allez toucher, dites-nous.
Alors, je vais tout comprendre. compris, hein, je serai à moins de 1200 euros brut.
Ah ouais.
Brut, brut. Ouais. Moins
brut.
De
1200 euros. 1000 euros, juste 1000 euros. Voilà.
Ah, mais vous serez, Pascal, parce que on va jusqu'au bout, hein, dans la manière dont on se dit les choses.
Oui.
Vous avez votre logement, vous êtes dans l'Ardèche.
Bien sûr, oui,
voilà,
oui,
vous n'aurez pas de loyer.
Voilà, ma femme, moi, a eu l'intelligence de me dire il va falloir faire attention parce que tu auras une retraite de misère.
Toujours écouter sa femme.
Oui. Voilà, elle est de bons conseils et j'ai
Bruno,
eu la possibilité et j'ai eu la possibilité et la chance d'avoir une femme qui travaille aussi, donc nous avons acheté de vieux appartements.
Et voilà. Puis des une très grosse entreprise.
Attendez, laissez finir. Allez-y, Pascal. Vous avez acheté des vieux appartements, vous les avez retapés.
Voilà, qui me vont me faire un complément de retraite. Mais si je n'avais pas eu la possibilité d'avoir une femme et pas l'intelligence de pouvoir le faire, je dis voilà, parce que ça va ensemble. Hein, on pourrait...
Donc vous vous êtes fait votre complément de retraite à côté, quoi. Oui, avec combien d'appartements?
Ben, j'ai 4 appartements.
Ah ouais,
c'est bien.
Voilà, mais ce sont des petits.
Vous avez retapé vous-même.
Il y a des petits
loyers. Critique, hein, Pascal.
Les loyers en Ardèche et les loyers en région parisienne ne sont pas les mêmes.
Oui, bien sûr.
Ça me fera un complément de 500, 600 euros, quoi. Voilà.
Ouais. Voilà.
Mais ça sera pas mal sur le retrait de 1200.
600. Voilà, mais je me
plains. Voilà, mais vous voyez que quand on va prendre des mesures contre les propriétaires. Là aussi, on ne cible pas. Il y a le gros propriétaire et le petit propriétaire qui fait ça pour, qui va acheter un ou deux studios dans des villes moyennes ou dans des communes rurales pour louer, pour se faire des compléments de retraite. Et on va venir peut-être demain le taxer, comme s'il possédait 3 immeubles à Paris.
Les taxes foncières explosent.
Allez-y, Pascal.
Oui, je suis énormément taxé là-dessus. De toute façon, aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai des appartements. Avec les prêts, les taux d'imposition, je n'en tire actuellement aucun bénéfice. Mais vraiment aucun bénéfice. Je paye encore des crédits dessus. Mes crédits ne me permettent pas de rembourser les loyers plus les impôts que ça engendre. Voilà.
Évidemment.
Je suis déficitaire d'environ, on va dire, à peu près 3 ou 4 000 euros par an.
Vous faites un capital quand même sur le long terme.
Complètement. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu la possibilité.
À condition qu'il n'ait pas un accident de parcours. Et à condition qu'il n'ait pas un accident de parcours dans son temps professionnel. Sûr, parce que si demain, il n'a plus de loyer, il n'a plus de salaire, il ne peut plus rien payer.
Vous faites un peu de déficit fiscal aussi, Pascal.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, il y a un déficit fiscal, tout à fait.
Oui, mais le problème de Pascal, c'est que la taxe foncière ne cesse d'augmenter chaque année.
Voilà, moi, ma taxe foncière,
ça va continuer avec la fin de la taxe d'abord.
Allez-y, votre taxe foncière.
J'ai reçu encore un complément de taxe foncière pour cette année-là. Voilà, j'ai reçu une lettre du centre des impôts dernièrement. J'en ai encore pour 200 euros, ça prend 10%.
Ah bah Pascal, inquiétez-vous.
À 2000 euros, voilà.
Inquiétez-vous Pascal, parce qu'avec la fin complète de la taxe d'habitation, ça va se reporter sur la taxe foncière.
Je suis tout à fait au courant de la situation. Mais pour en revenir et pour finir, parce que d'autres personnes veulent peut-être passer à l'antenne, et puis je travaille aussi, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très juste, et M. Bardella, comme l'a dit, je pense qu'il faudrait, pour moi, comme je dis, hein, je ne suis pas spécialement sympathisant du Rassemblement National, mais c'est très juste. C'est très juste. Les personnes
mais pour
qui ont
citer pour la dixième fois
ans,
M. Bardella,
allez-y.
Voilà, mais je l'ai entendu vendredi, je crois, hein, ce monsieur.
Oui,
hein,
c'est
Bardella,
oui.
Voilà. Et
nous donner l'adresse du replay, non, peut-être?
Alors, allez-y, finissez, Pascal.
Et c'est vrai que quand il dit que les gens ont commencé à 18 ans, terminé à 60 ans, ce serait fort agréable. Parce que nous arrivons à 60 ans en étant très fatigués. Très, très fatigués.
Bien sûr.
J'ai un ami, moi, qui fait, voilà, j'ai un ami qui est dans le TP. Je l'ai vu ce matin. Il a 54 ans. Il ne tient plus. Il a des douleurs au dos. Ce sont des métiers qui sont pénibles.
Voyez, voilà. Pascal, vous vous plaidez pour une réforme plutôt à la carte, par points. C'était d'ailleurs la première réforme Macron et qui peut-être réglait en partie le problème de la pénibilité.
Non, excuse-moi, il t'avait pas expliqué comment il allait faire les points, il t'avait pas expliqué la pénibilité. La pénibilité, elle nous a déjà été expliquée à l'époque d'Hollande et en fait, on a complètement enflé les gens avec cette histoire. En réalité, les comptes pénibilité, comme l'a dit Pascal, finalement le BTP c'est pas pénible. Non mais attendez, regardez un mec qui bosse au marteau piqueur ou qui travaille sur un toit, vous allez me dire que c'est pas pénible.
Le problème c'est que quand tu prends en compte la pénibilité, tu crées des régimes spéciaux.
Ah bah voilà.
Et 50 ans après, tu te les trimbales toujours.
Oui, mais il y a des métiers qui ont une pénibilité particulière et d'autres non.
Il y en a qui en ont beaucoup moins mais qui sont toujours dans des régimes spéciaux.
Alors Pascal nous a montré une chose aussi, c'est que lui le charpentier en Ardèche, avec un foncier, avec un prix d'immobilier qui est beaucoup moins cher, finalement, il a compté sur lui-même pour arriver à se faire, au fil des années, un petit complément de retraite avec les appartements qu'il a achetés. Brice est du côté de la Meuse. Bonjour, Brice.
Oui, salut VGG.
Mon cher Brice, que faites-vous dans la vie?
Ah, je suis désolé, hein, je vais me faire maudire. Je suis conducteur de train à la SNCF.
Bah, y a pas de raison.
On les adore.
Non, mais au contraire. C'est pas grave. Au contraire, ce qui est pratique avec vous, Brice, ou avec Pascal, ou la personne qui était avec nous juste avant, oui, dans Lyon, c'est qu'on voit justement les différents corps de métier, les différentes personnes. Alors vous, Brice, qu'est-ce que vous pensez dites-moi.
Si je peux me permettre, je voulais juste passer un petit bonjour à Christian et Jennifer. C'est une sandwicherie à Bar-le-Duc. Donc j'en passe le bonjour. Ils vous écoutent tous les jours en préparant.
On les salue. C'est quoi leur spécialité comme sandwich?
C'est des gros pains avec des steaks, plein de choses.
Ah oui, ça c'est pas pour Barbara, ça.
Ouais. Ouais. Barbara, elle a des palpitations.
Des steaks dans du pain.
C'est pas bon pour le régime.
C'est bon pour les bons. Allez-y. Alors, Monsieur Brice, allez-y. Alors, cette réforme des retraites, on lève le pied ou on décide vite?
Alors, moi concrètement, je suis pas pour, mais si tant est qu'elle doit se faire, j'ai dit bien si tant est qu'elle doit se faire, il faut lever le pied. Déjà, je pense qu'on a un gros problème. On sait que le chômage coûte cher à l'État et aux caisses de retraite et à tout ça. Là, cet hiver, on sait que déjà plein d'entreprises avec le coût énergétique vont se mettre en chômage technique. Ça va encore coûter de l'argent. Au lieu de s'occuper des retraites, là, il ferait bien de s'occuper, par exemple, de désindexer l'électricité du gaz, ce qui permettrait à peut-être des entreprises de ne pas fermer.
Ils le promettent. Oui. Mais comme c'est à l'échelle européenne, c'est compliqué.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il promet qu'il va s'en occuper. Mais c'est demain, là. C'est aujourd'hui déjà.
Oui, on est d'accord.
Et les retraites.
L'urgence, elle est là, vous avez raison.
Les retraites, il faut que ça soit fait maintenant. Par contre, le gaz, on verra ça peut-être début d'année prochaine.
Ouais.
Non. Parce que c'est encore des gens qui vont être au chômage. C'est encore des gens. Je veux dire, on va encore subir un coup à tout ça. Je pense que l'urgence, déjà, elle est là. Premièrement. Deuxièmement, au lieu de s'attaquer aux effets, il faudrait peut-être s'attaquer aux causes. Je pense que, quelque part, quelqu'un qui a travaillé, qui a ses années, on peut le laisser partir. Je veux dire, vous voyez, regardez le manque de conducteurs qu'il y a à la SNCF, le manque de conducteurs qu'il y a dans les bus.
Il y a
un moment, les gens, il faut que ça soit attractif aussi. Leur dites maintenant, vous savez, Madame Borne qui vous explique les retraites, mais Madame Borne, qu'est-ce qu'elle a de pénible dans son job? On la conduit tous les jours, quoi.
Brice, vous n'êtes pas le plus mal loti, vous, à la SNCF, non?
C'est très caricatural.
Alors expliquez-moi pourquoi il manque autant de monde.
Vous-même, vous partez à la retraite à quel âge, cher Brice?
Là, si je peux absorber la décote, je dirais qu'il faut que je parte à 60 ou 61, à peu près. Je n'ai même pas fait l'évaluation, hein, parce que franchement, c'est tellement déprimant que... Puis à 43 ans, si je commence déjà à penser à quel âge exactement je vais partir... je préfère même pas me faire de mal, parce que tous les jours, aux infos, on voit qu'on s'en prend une cartouche. Donc maintenant,
je pense qu'en fait, aujourd'hui, plus personne en France ne croit à ce système. Pardon, mais et tout à l'heure Charles disait c'est bien, c'est un système très solide. Non, plus personne ne croit à ce système.
Je dis que ça n'est pas un système libéral.
Tout le monde se dit, il faut essayer de mettre de l'argent de côté parce que ça sera une catastrophe pour nous. On est en train de faire une réforme pour ceux qui sont finalement déjà bien lotis, qui sont déjà à la retraite et qui ont plutôt des bonnes retraites.
Allez-y.
Moi, je vais vous dire honnêtement, la retraite, voilà, on en parle parce que c'est quand même un but en soi. Je veux dire, c'est à la fin. C'est quand même un but en soi.
Mais
moi, je pense qu'il y a aussi un gros problème. C'est les conditions de travail. Ça se détériore de plus en plus. Comme elle disait Barbara, j'adore Barbara dès qu'elle parle. J'excelle. Hein, j'adore, je kiffe. On a des jeunes qui arrivent, des jeunes cadres dynamiques qui sont prêts à tuer père et mère pour monter, pour machin. Et ils vous en mettent plein la tête. Mais c'est quoi ces conditions? Mais moi, il y a un moment, on n'ira pas. Vous avez, comme le monsieur qui a parlé juste avant moi, charpentier, vous croyez qu'à 65 ans, il pourra courir sur les tuiles, sur le toit, à 10 mètres de haut, à porter? Donc, on est, je veux dire, il disait c'était une réforme qui était faite parce que pour les gens qui arrivent plus tard sur le marché du travail. Mais si vous arrivez plus tard sur le marché du travail, c'est peut-être parce que vous avez des diplômes. Si vous avez des diplômes, vous travaillerez pas à 3 heures du matin à la chaîne, en montée des
pneus. Mais vous travaillez pas à 3 heures du matin à la chaîne.
Je travaille à 3 heures du matin, moi.
Oui, mais vous êtes pas à la chaîne.
Vous verrez. Venez avec moi. Je vous mets en.
Et vous travaillez à 3 heures du matin pour faire quoi?
Pour conduire les trains.
À votre avis.
Oui, mais pas des trains de voyageurs, alors. Quel train circule à 3h du matin?
Un train qui commence à 6h, il faut bien qu'il arrive avant.
Qui décolle à 5h du matin. Vous croyez qu'il était en gare, en route toute la nuit à vous attendre? Non, il était dans un triage, dans un faisceau. Vous avez des essais à faire. On ne met pas un train en route comme on démarre une voiture. Je ne me plains pas. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est pour ça que j'aime pas dire que je suis conducteur de train à la SNCF, parce qu'à chaque fois, on tombe sur ces clichés.
Non, non, mais Brice, pas du tout, on pose Brice, des est-ce questions. Que, justement, vous avez fait une simulation, Brice? Est-ce que vous savez à non, quel âge alors, vous allez partir?
J'en ai reçu il y a pas longtemps, de la.
Voilà. Mais avec combien? Allez-y.
Ah, bah, là, c'était pour mes 20 ans cotisés, hein. Je crois que si je prenais la retraite, j'étais à 300 et quelques euros par mois, un truc comme ça.
Mais en théorie, non, mais vous partirez à 60, 62 ans, quoi, alors, c'est
normalement,
ça.
Il faut que si je veux le taux plein, c'est entre 60 et.
Enfin, d'accord.
Et non, mais. 60 et ce sera combien? Et attends, et ce sera combien le taux plein?
Ben, ça dépend de mon évolution de carrière.
Oui, c'est très virtuel, parce qu'il a 43 ans d'ici là, il y aura forcément eu 12 réformes des retraites.
Ouais, c'est clair.
Puisque chaque président fait faire une réforme
sans
des retraites.
Sans compter si ça reste la SNCF.
Oui, ouais. Vous avez raison, parce qu'en plus, on engage de plus en plus de contractuels.
On a aussi cette chose-là au-dessus de la... Voilà, il n'y a aucune certitude.
C'est la fin des retraites, c'est la mort des retraites. C'est... Charles le disait tout à l'heure, on va vers un système à l'américaine.
Bah alors, il faut le dire.
Oui, non,
au lieu de faire croire que le fait ce matin déjà, Madame Borne qu'il s'agit simplement de pérenniser le système.
Je remercie Brice d'avoir été avec nous.
Les plus défavorisés, mais on va
et nous avoir donné son exemple particulier de conducteur de train. On a posé la question réforme des retraites. Faut-il lever le pied ou pas? C'est un lever le pied plutôt qu'accélérer. Lever le pied à 60 combien 69.
On change rien, ça veut dire.
Ça veut dire
que les
Français nous expliquent mieux ce qu'ils veulent faire, qui nous expliquent enfin ce qu'ils veulent faire au lieu de nous faire cette politique de gribouille. On comprend rien du tout.